Bonjour Madame Hertel.
Bonjour.
Rachel Hertel, vous avez à plusieurs reprises dans vos déclarations écrites ou orales affiché une forme de, disons le mot parce que c'est celui que vous employez, de pessimisme sur les velléités de résurrection de la langue yiddish que l'on a pourtant pu constater un peu partout dans le monde, dans les quartiers de New York, à Montréal, à Anvers, à Tel Aviv. Et vous déclariez d'ailleurs à ce sujet à une journaliste du journal Le Monde en 2012 « Je reste très pessimiste. Un peuple ne se relève pas d'un génocide, une langue non plus. Tous les exemples que l'on note aujourd'hui restent du domaine de l'exception. Il faut se rendre compte de ce que cela représente sur le plan psychologique d'écrire en yiddish. Écrire dans une langue qui aurait dû être maternelle, mais qui ne l'est pas, et qu'il faut réapprendre comme si elle l'était. Il y aurait des livres à écrire là-dessus. » Et d'ailleurs, vous avez suivi votre propre conseil. Ce dont il est finalement question ici, me semble-t-il, dans vos propos, c'est de l'endroit où il serait raisonnable de poser le curseur de l'espérance. Or, vous-même, vous ne versez pas volontiers dans des questionnements d'ordre théologique, en tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre dans vos déclarations. En revanche, dans les textes que vous avez traduits, il y a souvent une forme, à minima, d'interrogation sur le présent et l'avenir de la langue et du peuple yiddish, si on peut l'appeler comme ça, et souvent même de forme de colère scandalisée de la part des auteurs face à un dieu qu'ils trouvent bien silencieux, notamment bien sûr après le Rouhben, l'anéantissement. Et pour vous, ce dieu, pourtant, est avant tout une figure littéraire du Rouhben. Vous l'envisagez, vous en parlez comme une construction littéraire, et c'est sur ce point que nous voudrions vous entendre. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous proposer quelques formules qui illustreraient ce concept de figure littéraire de Dieu dans la littérature yiddish ?
Fiction littéraire ?
De fiction littéraire, de figure littéraire de Dieu dans cette littérature.
Bon, écoutez, je pense essentiellement à la poésie, hein, quand je repars. Hein. Le roman, c'est autre chose. Hein. Le roman n'aborde pas, en quelque sorte, ces sujets-là. Ou alors, quand le roman l'aborde, il le rejette dans un passé lointain. En revanche, la présence de Dieu dans la poésie yiddish est absolument prégnante. Évidemment, je n'ai aucune opinion sur la foi ou l'absence de foi des auteurs, des poètes. Tout ce que je sais, c'est qu'ils invoquent Dieu, ils parlent à Dieu, il l'invective, je cherche un terme plus fort que invectiver, il est toujours présent, sous une forme ou une autre. Alors, la question se pose de savoir si véritablement ces poètes sont croyants. Et ça, évidemment, on n'a aucun moyen de le savoir, sauf à les interroger, et encore, le saurait-il. Et donc, la question se pose, pourquoi cette invocation de Dieu est si présente? Elle est si présente, à mon sens, et ça, j'en prends la responsabilité uniquement moi, ce n'est pas quelque chose que j'impose. Pour moi, c'est une figure littéraire. Pourquoi c'est une figure littéraire? Parce que rien, si vous voulez, n'est à la hauteur de ce qui s'est passé pendant ce génocide. Donc, il fallait un personnage qui soit à la hauteur de l'anéantissement qu'a connu le peuple juif. Et donc, dans ces conditions, il lui adresse soit la plupart du temps des reproches, ils disent qu'il a détourné sa face d'eux, ils disent qu'ils font de véritables procès en quelque sorte à l'encontre de Dieu. Et donc ce sont ces figures-là, je crois, qui caractérisent le rapport à Dieu des poètes yiddish.
Effectivement, quand on lit vos traductions, il y a souvent de l'ordre de la provocation, hein, mm-hmm. une agressivité très assumée. Mm-hmm. Et on peut se demander, quand on ne connaît pas, comme c'est notre cas, la langue yiddish, si vous donnez une intensité particulière à des mots qui peut-être ne l'apportent pas, ou si, voilà, comment vous arrivez à rendre compte de cette violence-là? Est-ce que vous vous mettez des barrières ou pas du tout? Comment vous travaillez sur le mot? Et j'aurais une deuxième question qui est liée aussi à cette idée de traduction. Est-ce que le mot qui qualifie Dieu est toujours le même? Et est-ce que dans les appellations, s'il y en a plusieurs qui désignent Dieu, il y en a qui sont connotés, possiblement péjorativement? Est-ce que ça existe ou pas?
Alors, le terme « Dieu » n'est jamais connoté péjorativement. En revanche, les reproches qui lui sont faits, l'espèce de procès que lui intentent les poètes, ça c'est véritablement exprimé. Alors, est-ce que je lui donne une intensité plus forte que ce qu'il y a dans la poésie yiddish? Je ne crois pas. Je crois que véritablement, il s'adresse à ce qui, dans l'imaginaire humain, est considéré comme étant le pouvoir suprême. Et il s'adresse à ce pouvoir suprême, mais pas en tant qu'être suprême, mais en tant que figure littéraire. Parce qu'ils n'ont rien trouvé qui soit à la hauteur du génocide. Et donc, là, on va lire ensemble, peut-être longuement, et je ne vais pas parler d'autre chose de celui-ci, et vous verrez comment Katzenelson parle à Dieu. Katzenelson était un poète un peu plus âgé que ceux dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Il était déjà poète avant la guerre. Il vivait à Lodz en polonais, et il est parti à Varsovie quand la guerre a éclaté, et il a été emprisonné dans le ghetto de Varsovie. Il a écrit lui aussi tout le temps. Il y avait dans le ghetto de Varsovie ce qu'on a appelé Onek Shabbes, c'est-à-dire la joie de Shabbat, et c'était un travail d'archivage qu'a organisé un historien yiddish qui s'appelait Ringelblum. Donc il y a les archives de Ringelblum et Ringelblum encourageait tous les prisonniers du ghetto de Varsovie à écrire sur ce qu'ils voulaient, sur la nourriture, sur la maladie, sur tout ce qu'ils vivaient. Et peu importait, ça n'avait pas besoin d'avoir une valeur littéraire. Ça devait témoigner de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils ont écrit, mais il fallait que ce soit fait. Et Katzenelson a fait partie de ce Onek Shabbat, cette joie de Shabbat. Ils se rencontrent une fois par semaine et ils apportaient leurs témoignages ou les écrits qu'ils avaient trouvés. Et tout cela était consigné. Et ça a été enterré et retrouvé après la guerre. Katzenelson avait une femme et deux fils qui étaient avec lui dans le ghetto. La femme et un fils ont été déportés. Katzenelson a reçu de la part de ses amis en Amérique du Sud, je ne me souviens plus quel pays, un affidavit lui permettant de venir les rejoindre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti, effectivement, croyant qu'il allait se rendre là-bas. En fait, il est arrivé à Vittel, et là, de Vittel, les nazis l'ont fait revenir à Auschwitz, où il a été gazé avec son fils qui lui restait dès son arrivée. Et il a donc écrit un poème qui s'appelle « Das Lied von ausgehärteten jüdischen Volk », le chant du peuple juif assassiné. Et vous verrez comment il s'adresse à Dieu, et on va le lire peut-être,
on va le découvrir, et en parler après. Ensemble. Je vais d'abord vous proposer une lecture en français, oui. Et puis nous vous entendrons ensuite en yiddish.
Parce que moi, je ne le lirai pas en entier. Parce que...
Oui, il est assez long, on peut le dire à nos auditeurs. C'est un peu long, oui. Apparaissez à mes yeux, vous tous, venez. Je veux vous voir, je veux vous regarder, je veux jeter sur mon peuple assassiné un regard aveugle, un regard sourd, et je chanterai, oui, à moi l'harpe, je chante. Aux cieux. Ainsi cela commença au commencement. Cieux, dites pourquoi. Pourquoi? Pour quelle raison notre honte sur la grande terre? La terre sourde et muette ferma les yeux. Cieux qui voyaient tout, d'en haut, vous regardiez d'en haut, sans chavirer. Pas un nuage n'a obscurci votre bleu de pacotille à l'éclat fourbe. Le soleil en rouge bourreau a continué son éternelle course. La lune, vieille putain, est sortie faire sa ronde, et le clignement indécent des étoiles, yeux de souris, acquiescé. Arrière, je ne veux pas vous voir, ni vous connaître. Ô cieux fourbes, menteurs, dans votre bassesse élevée, ô ma douleur, jadis je vous ai cru, vous ai confié joie et peine aussi, sourires et larmes, vous ne valez pas plus que la terre, ta abjecte d'immondice. Cieux, j'ai cru en vous, vous ai chanté dans tous les chants de mes chants, je vous ai aimé comme on aime une femme, elle est partie, évanouie comme l'écume, ma jeunesse a comparé les flammes du soleil couchant, votre azur. À mon espoir, ainsi se couche mon espoir, ainsi s'éteint mon rêve. Arrière, arrière, vous nous avez trompés, mon ancienne souche, de toute éternité, trompés mes patriarches, mes prophètes, trompés. Vers vous, ils levaient leurs regards, s'embrasaient à vos feux. Fidèles parmi les fidèles sur terre, ils aspiraient aux cieux. Vous refusez de nous connaître et de nous reconnaître. Pourquoi avons-nous donc changé? Nous sommes les mêmes que les Juifs d'antan, meilleurs et plus grands. Je ne veux ni ne peux aux prophètes me comparer, mais tous ceux qui à la mort ont été menés, tous mes millions exterminés, ils sont meilleurs, plus grands, douloureux, purifiés par l'exil, incomparablement plus grands que les grands Juifs de jadis. Le plus petit, le plus humble juif de Pologne, Lituanie, Volhynie, en chaque lieu d'exil, pousse sa lamentation, un roi trompé, un Job, un Jérémie.
Voilà, et cela continue sur cette lancée. Donc, il y a, là, enfin, j'ai en lire quelques, deux ou trois strophes, et on pourra en parler après, et voir ce que... Comment vous considérez la chose? Aux cieux, c'est évidemment à Dieu qu'il s'adresse. C'est une autre expression pour invoquer Dieu. Donc, zu dehimoen, azois wird zuckert ongehoben, bald in onheb, himoen, sorgt far vos, o sorgt far wel. Was kommt es uns also verschämt zu werden in der größeren Erde? Die Erde täubstumm hat wie vermacht die Augen. Ihr Himmel aber, ihr habt doch gesehen, ihr habt sich zugeguckt in der Heuch Augen und nicht über sich gekehrt. Nicht verwirrt nicht verwogen und hat sich eine billige die Bläu und hat sich ständig falsch geschmerzt. Die Sonne ist heute wie ein Talien größer, hat ihn ständig gekeulert sich in Kreise. Die Levone wie ein alter Hur, ein Sinnliche, ist in die Nacht ein Reus und hier spazieren. Und Sterne haben zugewunken, schmutzig, gefinkelt mit den Augenlach wie Mais. Erweckt. Ich will auf euch nicht gucken. Ich will nicht sehen euch, nicht wissen von euch mehr. O Himmel, ein Falsche. O generische, niedrige Himmel in der Heuch, ach, wie mir verdrießt. Ich hab einmal gelobt euch, vertraut mein Fried, mein Umet euch, mein Schmeichel und mein Träger. Ihr seid nicht besser von der Mieser der Erd, der größer Häufen Mist. Voilà, c'est que, pour que vous entendiez, vous pouvez aussi voir que c'est évidemment, ce sont des vers longs, des vers de colère, des vers d'imprécation.
Et on précise que l'on mettra ça évidemment sur le site hein, de Mémoires en jeu, rubrique pédagogique. Alors, puisque vous m'avez posé la question du ressenti de ce texte,
voilà.
Je commencerai par dire qu'il y a sans doute dans ce texte-là plusieurs aspects, me semble-t-il, que je découvre avec vous. Hein. D'abord, un manque de reconnaissance. Ensuite, une rupture qualifiée quasiment de rupture amoureuse avec ce dieu des Juifs qui, mm-hmm. finalement, ne les reconnaît pas. Mm-hmm. Il parle, je crois, d'une... Je vous ai aimé comme on aime une femme, elle est partie évanouie. Mmh. Il y a presque là de la décristallisation stendhalienne, enfin mmh. voilà, l'idéal s'est effondré. Et ensuite, une sorte de sursaut d'émancipation. Puisque vous ne me reconnaissez pas, eh ben, je vais tracer mon chemin malgré vous, d'une mmh. certaine manière. Et j'en viens et j'en reviens à cette réflexion sur le dieu, j'ai envie de dire, non pas des Juifs, mais du Yiddish. Il me semble là qu'il y a... une sorte d'émancipation et de confrontation avec le dieu juif en hébreu et le dieu yiddish, qui est un dieu ici qui supporte la révolte de ce poète. Ma question sera donc la suivante. Est-ce que vous pensez que de tels poèmes de révolte, de colère contre ce dieu ne peuvent être exprimés d'une certaine manière que dans la langue yiddish, c'est-à-dire la langue qui n'avait pas été assez reconnue dans la communauté juive elle-même, alors que l'hébreu serait, comme vous l'avez déjà dit, la langue du sacré, la langue du dieu idéal? Est-ce que vous percevez ça dans ces textes-là? Est-ce que, en d'autres termes, on pourrait avoir ce texte-là en hébreu, où ce serait presque vécu comme un sacrilège, alors que le yiddish, lui, avec tout son passé culturellement, comme ça, de langue peut-être un peu déprisée, lui peut se permettre, par sursaut, comme ça, de s'affronter à Dieu. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Est-ce que c'est comme ça que vous le retrouvez dans ces écrits-là?
Oui, c'est comme ça que je le retrouve. Effectivement, il y a un poète yiddish qui est Zeitlin, dont la poésie vient d'être publiée en français, en bilingue, qui est un mystique. Mais pour les autres poètes yiddish qui ont connu soit physiquement, soit mentalement, imaginairement, qui ont connu le génocide, il y a chez eux un besoin de situer les événements qui les ont touchés au plus haut de ce qui peut être imaginé. Et effectivement, que peut-on invoquer de plus haut que Dieu ? Y a-t-il une créature, y a-t-il un être qui soit supérieur à Dieu? Et donc, il y a une sorte de parjure, de rejet, puisque ni le cosmos, ni Dieu n'ont tenu compte de ce qui se passait, eh bien, ils sont coupables pour toujours, ou bien ils n'existent pas du tout. Et pour moi, tel que je lis ces poèmes-là, je vous en lirai un autre en français peut-être pour aller plus vite, c'est véritablement ils sont dans le blasphème.
C'est ça.
Ils sont dans le blasphème et au-delà du blasphème. Parce que le blasphème, d'une certaine manière, croit en quelque chose. Or, lui, ce qu'il dit, c'est « Va-t'en, je ne veux pas te connaître,
tu
n'existes pas. »
C'est une sorte de déréliction inversée, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui abandonne les hommes, c'est eux qui abandonnent leur Dieu. Quoi. Débrouille-toi tout seul, hein. Il y a quelque chose
Exactement.
Comme ça.
Exactement.
De liberté, finalement, c'est une affirmation de liberté aussi.
Je ne dirais pas que c'est une affirmation de liberté, parce que les circonstances dans lesquelles ça a été écrit... Ça aussi, il l'a écrit à Vittel quand il était prisonnier, et il l'a enterré, et heureusement qu'une des prisonnières de Vittel a survécu, et il lui avait confié l'endroit où il l'a enterré, et c'est comme ça qu'on a récupéré ce poème. Je pense qu'il y a un rejet de la dimension sacrée de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Si ça a pu se passer, c'est que pour eux, il n'y a pas de Dieu. Mais qui peut-on invoquer? Qui peut-on châtier pour ce qu'il a commis? Eh bien, c'est le seul qui soit à la hauteur, c'est Dieu. Donc, c'est contre lui que se tournent la plupart des poètes yiddish après le courbe.
C'est étonnant parce que c'est un dieu qui est à la mesure du mal, c'est un dieu complètement satanique en réalité, qu'on rejette en tout cas.
Qu'on rejette, qui est... que l'on nie en fait, avec il dit en yiddish « va-t'en, va-t'en, je ne veux pas te connaître ». Et c'est d'autant plus vrai, c'est que il a écrit aux cieux, il a écrit des poèmes avant, et il fait une citation dans ce poème. Attendez, vous me passez le vôtre parce que je ne l'ai pas en français. Il fait une citation de ses poèmes d'avant-guerre où il dit... voilà. Il se cite... Ma jeunesse a comparé les flammes du soleil couchant en votre azur, à mon espoir. Donc Dieu était son espoir. Ainsi, et il fait la citation d'un autre de ses poèmes écrits avant, « Ainsi se couche mon espoir, ainsi s'éteint mon rêve. » Et véritablement, ce Dieu-là, il n'est bon que pour être un repoussoir et non pas un Dieu existant.
Un interlocuteur à la taille du malheur qu'il vit.
Une figure littéraire.
C'est ça. Donc nécessaire, donc omniprésente dans
non,
la poésie
pas comme
du...
une présence, justement comme une absence.
Comme une absence, non je veux dire, oui, vous avez raison, oui, comme une absence tout le temps... évoqué.
Voilà, en ouais. Quoi c'est une figure littéraire. Mm-hmm. Parce que nous n'avons aucune preuve de sa croyance, ni des autres poètes. Ce que nous avons, c'est l'invective, l'accusation, le procès qui est fait à Dieu, mais c'est tout ce que l'on trouve dans la poésie yiddish après le courbou. Et c'est pourquoi je parle en termes de figure littéraire.
D'accord. Oui, en réalité, on s'en fiche un peu de savoir s'il y croit ou pas, ça n'est pas l'important. L'important, c'est qu'il y ait ce mur contre lequel il fait entendu. Et pour revenir à ma question initiale, est-ce que vous savez si cette poésie yiddish, et notamment quand elle est aussi sacrilège d'une certaine manière, obtient quand même une considération de la part des écrivains qui écrivent en hébreu, et je pense notamment aux écrivains qui peut-être réfléchissent à Dieu dans leur œuvre. Est-ce qu'il y a un regard particulier porté à cette littérature yiddish? Est-ce qu'il y a un dialogue entre ces deux littératures-là?
Alors, c'est un dialogue, on a dit, je ne dirais pas ça, parce que un jeune poète hébreu, parlant du yiddish, a dit, voilà, nous sommes entourés par des peuples qui nous sont hostiles. Mais notre ennemi intérieur, c'est le yiddish.
Ah oui, tout de même.
Donc, véritablement, il y avait une lutte, on appelait ça d'ailleurs la guerre des langues, c'était vers le milieu du 19e siècle et jusqu'à la création de l'État d'Israël, le yiddish était proscrit d'Israël, à telle enseigne que Ben Gurion, qui a rencontré Soutzkever, a demandé à Soutzkever « Pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l'hébreu ?» comme ont fait de nombreux autres poètes. Et il a répondu par un poème. Un poème où il disait « Si ma langue disparaît, dites-moi où elle disparaît. Et si elle disparaît au mur des lamentations, je me présenterai devant le mur des lamentations et tel un lion furieux, je crierai dans ma langue. » Donc, il y avait véritablement une hostilité de la part de l'hébreu au yiddish. Bon, on peut parler de la question politique, de l'unité du peuple, pas l'unité du peuple, mais ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est de voir à quel point il y a le nom de Dieu et la révocation de Dieu par ses poètes. Et c'est pour ça que pour moi, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est qu'il n'y avait pas d'autres figures qui soient à la hauteur du crime.
Possible. Alors, dans un mouvement un peu binaire, comme ça, nous avons nommé cet entretien « Regard vers le ciel, vers en haut ». Et de Dieu aux cieux et des cieux aux étoiles, il n'y a qu'un pas que je vous invite à franchir avec nous. Alors, peut-être vais-je commencer par vous lire un texte qui n'est malheureusement pas une de vos traductions parce que c'est tiré de la poésie. C'est un texte de Shmuel Alkin qui s'intitule « Les étoiles me sont chères
». C'est chez Dobzhansky, c'est ça?
Absolument. Il faut simplement que je retrouve ce texte. Voilà. « Les étoiles me sont chères. Toute étoile est chère à mes yeux. » Pour la pureté de son feu, pour son vol parmi des milliers, pour son éclat particulier, parce que sa clarté profonde dans chaque goutte peut se fondre. Toute étoile est chère à mes yeux, car jamais n'est double son feu, quand elle offre à l'eau sa lumière, rien n'est plus sombre ni plus clair, sur la route longue et dorée qui monte jusqu'à l'empyrée. Toute étoile est chère à mes yeux, tant son ordre est vertigineux. Je trouve mesure pour elle, mais sa lumière en moi se perd, car elle appartient à la terre tout comme elle appartient au ciel. Et c'est sur ces deux derniers vers que je voulais vous entendre. Avez-vous, dans cette poésie yiddish, retrouver comme ça une sorte d'ambivalence de l'étoile qui, alors que dans, je dirais, une lyrique traditionnelle est associée aux cieux, évidemment, et parfois à l'inaccessible ou au rêve, ici semble paradoxalement aussi renvoyer à la terre, renvoyer voilà, à l'individu, à l'ici-bas. Est-ce que vous avez voilà, des textes comme ça qui pourraient illustrer cette complexité de l'approche de l'étoile dans la poésie yiddish?
Alors, l'étoile est très ambivalente en yiddish. Elle est devenue de plus en plus après la guerre. Alors, effectivement, j'ai là, quelque part, dans mes papiers, l'ambivalence qu'il peut y avoir à l'égard de l'étoile. Chez les Lévique, voilà. Chez les Vic, ça va, j'en ai plus besoin. Lévique écrit la chose suivante, « Honneur à l'étoile jaune. J'avais en main un bout de tissu jaune, froissé, déchiqueté, un chiffon. Ma bouche tordue en un rictus émit un cri. La voici, l'étoile jaune, l'étoile juive. Devant mon œil, un éclair, à chaque pointe une lueur bleue, les six pointes tordues de l'étoile juive. Et tout faire bon coup d'une coulée de sang. Le voici, l'odeur de l'étoile bleue. J'étranglais mon désespoir qui se mua en cri. Telle une bourrasque, il m'abattit tout au long de la nuit jusqu'à l'aube. Ma main en serra la brûlure, des corps, des membres et des peaux. Honneur aux poètes froissés tordus qui enlacent les dos voûtés, les bras et les épaules brisées. Honneur égorgé tel un champignon piétiné plein de ruines, de morts au nom de Dieu, déverse ton amour sur l'étoile jaune. » Donc là, c'est véritablement très précis. L'étoile jaune, c'est évidemment la marque d'infamie des Juifs. Il y a plus que ça, que l'étoile jaune, chez Gladstein. Gladstein qui dit, qui dans son poème qui s'appelle les cadavres ne chantent pas la louange de Dieu. La Torah, nous l'avons reçue au Sinaï. Et à Lublin, nous l'avons rendu. Les cadavres ne chantent pas la louange de Dieu. La Torah fut donnée pour la vie. Et ainsi, ensemble, telle l'assemblée debout unie pour recevoir le don de la Torah, ainsi, en vérité, nous sommes tous morts à Lublin. Ils ont rendu la Torah.
C'est quand même très fort. Hein, c'est...
Un autre poème de Gladstein aussi. Je ne vais pas vous lire tous parce que ce serait trop long. Mais là, je voudrais encore.
Ce qui révèle d'ailleurs à quel point c'est un emblème donc, de cette littérature. Hein, on la retrouve vraiment. On a l'embarras du choix.
Oui. Attendez. Ça s'appelle « Sans juif, il n'y a pas de dieu juif ». Donc c'est ici. Non, ça c'est en yiddish. Je crois que c'est ça. Sans juif, il n'est pas de dieu juif. Si nous venons à disparaître du monde, s'éteint la lumière de ta pauvre demeure. Du jour où Abraham t'a reconnu dans la nuée, tout feu brûlait dans nos visages, rayonnait dans nos yeux. Dans chaque pays, dans chaque ville, nous amenions un étranger, le Dieu juif. Chaque tête juive fracassée et le vase divin humilié, brisé, car nous étions ton réceptacle de lumière, le signe tangible de ton miracle. Aujourd'hui, par millions se comptent de têtes mortes. Les étoiles autour de lui s'éteignent. Ton souffle se ternit. Ton règne s'achève. Notre semence et notre floraison sont calcinées. La rosée pleure des herbes mortes. Notre rêve et notre réalité profanés, meurent tous deux. Dorment des communautés entières, nourrissons, femmes, jeunes, vieux, même tes piliers, tes rochers, les 36 justes puissants, dorment d'un éternel sommeil mort. Qui te rêvera? Qui se souviendra? Qui te reniera? Qui te cherchera? Qui, par un pont de nostalgie, te quittera pour revenir? La nuit est éternelle pour un peuple mort, ciel et terre effacés, la lumière s'éteint dans ta pauvre demeure, la dernière flammèche de notre dernière heure vacille, Dieu juif, bientôt tu n'es plus. Donc, si vous voulez, et je pourrais en accumuler, enfin, c'est constamment un rejet de cette figure qui jadis, dont on rêvait jadis, dont on, vers qui on revenait même quand on le daignait, c'est fini, le Dieu juif est mort. Comme sont morts ceux qui ont reçu la Torah au mont Sinaï, c'est-à-dire à Lublin, parce qu'à côté de Lublin, il y avait Majdanek, le camp de Majdanek. C'est pour ça qu'il parle de Lublin. Et il est originaire de Lublin, Gladstein.
Il me semble que ce que vous venez de lire va dans le sens de votre interprétation, parce que, effectivement, si Dieu, tel que le proposait le poème, revient au chaos, puisqu'il n'y a plus de différence entre le ciel et la terre, et on revient à la Genèse, telle que vous le disiez tout à l'heure, et les étoiles qui disparaissent, ce principe organisateur aussi, la lumière du monde.
Alors, la lune qui est une putain.
Voilà, le cosmos comme ça qui est déréglé et qui est désacralisé. Alors il n'y a plus que de la littérature. S'il n'y a plus Dieu, il n'y a plus que de la littérature.
Mais c'est ce que pensent des poètes comme Gladstein, comme Katzenelson, comme Lévig dans certains poèmes. Pour Lévig, c'est plus mitigé parce que il a cette empathie, il n'exprime pas sa croyance, il exprime l'empathie avec un Dieu déchu.
Ouais. Et tout le reste est littérature.
Et tout le reste est littérature, ouais.
Je vous remercie, Rachel Hertel.